Jean-Paul Bailly, le garant du grand débat, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Jean-Paul Bailly.
Bonjour Audrey.
Avant d'être garant du grand débat, vous avez été PDG de la RATP, puis PDG de la Poste. Donc la gestion des conflits sociaux, ça vous connaît. Vous ne trouvez pas qu'Emmanuel Macron s'y est mal pris dans cette crise des Gilets jaunes ?
Oh, je ne peux pas formuler une critique de ce type-là, mais en tout cas, je peux dire comment j'ai été amené à gérer effectivement des situations difficiles à la RATP ou à la Poste. En réalité, la méthode est assez simple. D'abord, il faut commencer par être capable d'avoir un projet partagé. Et d'ailleurs, à la RATP, par exemple, j'avais fait l'équivalent d'un grand débat avec l'ensemble du personnel, l'ensemble des élus, pour construire un projet qui ensuite a été le projet stratégique de l'entreprise.
Et alors ensuite, reste à mettre en place ce projet maintenant, pour Emmanuel Macron. Vous êtes donc un pro du dialogue social. Quel serait votre conseil, vos conseils à Emmanuel Macron pour sortir de cette crise ?
Bah, écoutez, quand on a une situation de ce type-là, en général, il y a deux choses à faire. Il y a une première qui est de bien calibrer les décisions court terme. Les décisions court terme qui ont forcément une dimension symbolique, parce que toute crise a une dimension symbolique. Et puis deuxièmement, de bien préparer et de bien organiser la manière dont on va mettre en œuvre les décisions qui demandent un petit peu plus de réflexion. Et pour cette partie-là, je pense que la dimension participative, alors dans une entreprise, c'est faire en sorte que les gens continuent à participer à l'élaboration de la décision qui va être prise, et dans notre cas particulier, c'est de faire en sorte que ce qui a émergé à l'occasion de ce grand débat, qui est un vrai besoin et envie de participation citoyenne, soit prolongé dans la mise en œuvre des décisions à venir.
Comment, par exemple, par des assemblées citoyennes, donner l'impression aux Français qu'ils interviennent davantage dans les décisions ?
Plus que donner l'impression. Je veux dire, faire en sorte qu'ils interviennent effectivement dans les décisions. Alors, il y a évidemment plusieurs méthodes possibles. Il y a celle auxquelles on pense souvent, qui est le référendum, ou qui est un élargissement de la proportionnelle pour que les assemblées soient perçues comme plus représentatives. Mais il y a, et je pense que c'est un des enseignements très importants et intéressants du grand débat, ce qui a été les assemblées citoyennes. C'est-à-dire des assemblées de citoyens tirés au sort et qui sont à la fois informés pour débattre sur la question qu'ils doivent traiter, et qui donc présentent l'avantage, ces assemblées citoyennes, d'être à la fois totalement représentatives et totalement délibératives.
Il faudra impérativement les mettre en place.
Moi, je pense que c'est une bonne idée pour accompagner des projets, pour accompagner la préparation d'un certain nombre de lois. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de la Poste et de la RATP, j'en ai fait aussi des assemblées citoyennes à la Poste et la RATP sur des sujets particuliers, avec des citoyens tirés au sort, pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques.
Alors, Jean-Paul Bailly, garant du grand débat, la grande leçon du grand débat, c'est que les Français veulent payer moins d'impôts. Était-ce bien utile de dépenser 12 millions pour arriver à cette conclusion ?
Oui, mais c'est toujours l'idée de sortir un point particulier par rapport à quelque chose qui forme un ensemble. Évidemment, ce point-là, comme d'autres points traités de manière indépendante, on peut toujours se dire qu'un bon sondage aurait fait l'affaire. Mais en réalité, l'objectif du grand débat est très différent. C'est pas du tout un grand sondage. C'est quelque chose qui permet de faire une photographie globale de la société française, avec ses priorités, ses accords, ses désaccords, ses contradictions. Et c'est sur la base de cette vision globale que doit se construire, comme c'était d'ailleurs dans la lettre du président de la République, les éléments d'un nouveau contrat pour la nation.
Et alors, concernant les impôts, tous les Français veulent les baisser. Le grand débat désigne la TVA comme le premier impôt qui doit baisser. Ça veut dire que la TVA va bientôt baisser ?
Ah, je ne veux absolument pas vous répondre dans ce domaine-là.
Parce que sinon, on se demande à quoi bon un grand débat si à la fin, Emmanuel Macron décide tout seul dans son bureau.
Peut-être qu'il le fera. Peut-être qu'il le fera. Mais moi, en tant que garant aujourd'hui, je ne peux pas aller sur la recommandation politique, parce que précisément, tout à l'heure, en fin de matinée, on va remettre notre rapport. Et à la fin de notre rapport, le temps des garants, donc comme le temps du grand débat, est terminé. Et c'est-à-dire que vient l'heure du politique.
Oui.
Voilà.
Donc, sans doute le plus compliqué. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune de l'ISF, le RIC et la suppression des 80 km/h, Jean-Paul Bailly, étaient les revendications prioritaires des Gilets jaunes. Ces mesures ont-elles été plébiscitées par les Français ?
Bah écoutez, C'est un peu comme je le disais déjà tout à l'heure, l'exercice n'est pas du tout le même. Si vous demandez aux Français s'ils sont d'accord sur tel ou tel point, ils vont vous répondre avec un certain pourcentage. Mais ce n'est pas la question qu'on leur a posée dans le grand débat. On leur a demandé qu'est-ce qui était le plus important
et,
pour
et
eux.
Et l'ISF, et donc, le RIC, donc, les 80 km/h ne reviennent pas.
Ces points-là sont figures parmi les points dont les Français disent qu'ils sont importants pour eux. Mais quand on leur pose une question globale, comme par exemple, qu'est-ce que vous pensez sur la fiscalité pour qu'elle soit moindre et plus juste, ils ont plein d'idées dont la suppression de l'USF, mais c'est pas que la suppression de l'USF, donc c'est beaucoup moins manichéen que ne peut l'être un sondage.
La santé, qui n'avait pas été un des quatre thèmes choisis, revient beaucoup, les Français sont très préoccupés par leur santé.
Oui, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui était très frappant, parce que il y avait quatre thèmes au départ, et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir que la parole était suffisamment libre pour qu'il y ait d'autres thèmes qui émergent, dont celui de la santé, qui a émergé très 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 fort, aussi bien sous le thème, on va dire, des déserts médicaux, que sur le thème de la grande vieillesse. Là, c'est vraiment un point très très fort.
Et l'immigration ? L'immigration, les Français s'en préoccupent-ils vraiment ?
L'immigration, c'est un point qui n'était pas, qui figurait pas véritablement, mais qui est sorti assez modestement et sous un angle assez particulier, qui est, au fond, les immigrés, quelle est la problématique de l'accueil ? Est-ce que c'est difficile de les accueillir, et comment peut-on les accueillir mieux si finalement on en accueille ? Donc ce point-là est sorti de manière assez marginal, mais quand même présent.
Jean-Paul Bailly, garant du Grand Débat, vous avez reproché à Emmanuel Macron son omniprésence médiatique pendant le Grand Débat. Diriez-vous que l'omniprésence médiatique du président a faussé le débat ?
Non, on ne dirait pas qu'elle a faussé le débat. Simplement, parmi les principes du Grand Débat, il y a celui de la neutralité. Donc on s'est posé la question de la présence de l'exécutif par rapport à la neutralité. Et on a jugé que, dans un premier temps, les interventions répétées du président de la République avaient eu un effet d'entraînement, un effet positif, un effet de publicité sur le grand débat, et donc l'avait rendu très présent.
Sur lui-même ?
Non. Nous, on ne peut pas juger de ce point-là. Mais sur le fait que ça a entraîné une adhésion, ça a facilité une adhésion populaire au grand débat, certainement, et que par la suite, donc, ces interventions plus répétées et plus médiatiques pouvaient jeter un doute sur la nature et l'objectif du grand débat.
Et en choisissant lui-même les quatre thèmes du débat, Emmanuel Macron a-t-il orienté le débat dans le sens au fond qu'il souhaitait ? Et est-ce que ça n'invalide pas le débat
en non,
ça invalide... et les résultats ?
Non, ça n'invalide pas le débat. De toute façon, dès le départ, la règle du jeu était assez précise, puisqu'il y avait ces quatre questions, et les Français sont assez grands pour sortir de ces questions-là. Le problème des questions est double, parce que on ne peut pas démarrer sans aucune question, on ne peut pas démarrer sans aucun cadrage. Et déjà là, avec ces quatre questions, on voit à quel point c'est foisonnant et très difficile à interpréter. Donc je pense qu'il y avait besoin d'un cadrage.
Et une dernière question, c'est que Emmanuel Macron va maintenant devoir faire des propositions. Le Premier ministre est plus ou moins convaincu que les Français seront déçus par les propositions. Dites-nous, à titre personnel, quelles mesures le président doit prendre en priorité sous peine de décevoir ?
Oui, je vous répondrai pas sous ce plan-là, mais je peux vous dire un point qui est important, c'est que je pense qu'il y a des décisions symboliques et urgentes à prendre, mais que tout aussi important est la manière dont les Français seront associés aux décisions de demain.
Et symbolique, c'est les baisses d'impôts.
Oui, si vous voulez, oui.
Merci beaucoup, merci Jean-Paul Bailly.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Nico Salier.